André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions sur les duettistes Jean Poiret et Michel Serrault en compagnie de nos deux amis comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Jean Poiret et Michel Serrault se présentent lors de leur première rencontre. Selon une légende tenace, cette rencontre officielle, voire historique, a eu lieu autour d'une audition où ils briguaient le même rôle, au théâtre Sarah Bernhardt, pour jouer dans Le médecin malgré lui et Les vivacités du capitaine Tic, d'Eugène Labiche. Entre deux apparitions sur scène, ils discutent, se font rire mutuellement. Ce jour-là, ils ne sont pas engagés. Poiret dit autour de lui « Avec Michel, on va écrire et jouer les sketchs ensemble. » Il est vrai que les deux hommes partagent le goût du canular, le sens de l'absurde et de la dérision, et une réelle amitié est née. Tous deux ont été plutôt élèves de la Rue Blanche avec Jean Le Goff. Tous deux ont déjà envisagé de créer un duo, pur hasard du destin. Les deux hommes sont quasiment voisins. Jean Poiret occupe une chambre, place de l'Étoile, et Serrault est à la porte Brunet. Dès lors, la chambre de Jean leur sert de local pour mettre au point leur premier sketch. Tous les 15 jours, surgit un nouveau sketch. À l'époque, les duettistes sont devenus très à la mode. Derrière les nouveaux venus Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, les talents d'antan Charles Trenet et Johnny, Pierre Dac et Francis Blanche, ce dernier s'acoquinera avec Daricole. Et une floraison de futures célébrités comme Jean-Pierre Darras et Philippe Noiret, Pierre Richard et Victor Lanoux. Poiret et Serrault se différencient par leur obsessionnelle tendance vers un humour d'une rare spécificité. La présentation un peu anarchique de tout ce qu'ils trouvaient ridicule. Des monologues pour ne rien dire. Des situations absurdes. Après des improvisations réussies devant quelques intimes, ils présentent leur sketch à la comédienne Suzanne Gabriello, la fille du chansonnier Gabriello, duettiste lui-même avec Rélis. Suzanne qui leur suggère d'aller faire un essai au cabaret Le Tabou. Leur numéro pour l'audition dure une heure. Ils sont engagés le 11 janvier 1953. Une mise à l'essai de 15 jours, sans toucher un centime. Ils mettent en scène le personnage de Jerry Scott, joué par Serrault. Ils font un tabac dans ce spectacle mi-écrit, mi-improvisé. En quelques nuits, la réputation du duo a déjà fait le tour de la capitale. Accueil triomphal, écrit le chroniqueur Max Favalelli. Enthousiasme d'André Roussin, grand auteur dramatique, leur humour est apprécié par l'écrivain Raymond Queneau. Leur succès grandissant, ils se produiront 8 jours plus tard, avenue de l'Opéra, chez Gilles, au lieu du spectacle parisien. Malgré une rude concurrence dans les cabarets parisiens, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault à l'Amiral, Yves Robert et Rosy Vart à la Rose Rouge, Rissé Barrier sur la scène du Directoire, un critique écrira « Ils ne sont que deux, mais ils ont de l'esprit comme 14. » Il y a de fortes chances pour que ce soit de très grandes vedettes de demain. Bientôt, chaque soir, à 22h, ils se produiront au cabaret La Tomate, dirigé par le chansonnier Robert Rocard. Ils y croiseront les comédiens Crève la faim, Louis de Funès, Jacques Fabry, Micheline Dax et Jean Carmé. À minuit et demi après La Tomate, pour finir leur circuit, ils se produiront au Tabou, vers les 2h du matin, mais aussi, le plus souvent, chez Gilles, où leur numéro alterne avec celui des grandes vedettes du moment. Après le spectacle, ils se rendent à la Cloche d'Or, célèbre restaurant de Montmartre, lieu incontournable de rendez-vous nocturne de toutes les vedettes des théâtres et des cabarets parisiens. Vers 6h du matin, après un bon repas, leur journée s'achevait. Voici, interprété par nos deux comédiens, Monsieur Poton, indépendant. Sketch écrit pendant les événements d'Algérie. Et bien que traité de façon totalement décalée, le sujet reste sensible et le sketch a généré des mécontents chez les gradés qui écrivent au ministère. Ce sketch sera interdit pour un temps sur les ondes.
Monsieur Poton, s'il vous plaît, vous serez très aimable. Entrez.
Oui, j'étais là depuis un moment d'ailleurs.
Vous savez, il y a des gens à recevoir avant vous.
Non, mais je comprends très bien.
Chacun son tour, vous savez ce que c'est. Asseyez-vous, je vous en prie.
Merci beaucoup.
Bon, débarrassez-vous, mettez-vous à votre aise, faites comme chez vous.
Ah, je vais rester comme ça.
Mais je ne vous dis pas de vous mettre en chaussons, bien entendu. Déposez votre serviette.
Très bien, merci monsieur.
Voilà. Dites-moi, monsieur Potkan.
Oui.
Vous ne trouvez pas que vous dépassez les bornes?
Ben, qu'est-ce que j'ai encore fait?
Qu'est-ce que vous avez encore fait?
Ben oui.
Mais vous vous êtes conduit comme un malotru. Une fois de plus. Voilà ce que vous avez fait. Des plaintes vous concernant, afflux de tous les commissariats de Paris. Et là, j'ai un dossier rempli de vos méfaits.
Oh, de mes méfaits?
Parfaitement, de vos méfaits. Mais il ne se passe pas un jour, vous m'entendez bien, sans qu'il me parvienne une demande de sanction pour vous. Ce ne sont que des scandales, manifestations sur la voie publique, appels à la révolte. Le président de la République lui-même a eu vent de vos fantaisies, alors c'est vous dire.
Ah bon? Tout de même alors?
Oui, tout de même, oui. C'est à l'issue du dernier conseil des ministres que j'ai été chargée de vous convoquer. Et au nom du gouvernement, je vous dis une chose, monsieur Poton, gentiment mais fermement, je vous dis, prenez garde.
Ah, je ne comprends pas.
Vous ne comprenez pas?
Non.
Bon, alors, je vais vous faire un bref résumé de vos dernières exactions. Vous allez comprendre tout de suite.
S'il vous plaît.
Mais nous sommes là pour ça.
Ben, je ne vois pas du tout.
Ah oui, vous allez voir. Le 24 juin dernier, vous avez, à l'aide de votre bicyclette, de celle de votre femme et du tricycle de votre petit-neveu Albert, tenté d'établir un barrage à Avenue de l'Opéra afin d'entraver la circulation.
Oui, ça c'est exact, oui, je revendiquais.
Attendez, c'est pas terminé. Le 12 juillet, vous êtes surpris toujours avec votre femme que, décidément, vous traînez partout.
Oh, écoutez...
Ah, vous faites ce que vous voulez avec votre femme.
Oui, quand même,
Ouais. Alors, nous n'entrerons pas dans ces considérations. Vous êtes donc surpris avec votre femme, en train d'installer votre lit, votre armoire et votre cuisinière en chicane, sous les guichets du Louvre.
C'est exact, oui.
Et vous avez fait des beignets toute la nuit. Alors, ça sentait la friture dans tout le quartier.
Oui.
C'est marqué là. Il y a des plaintes.
Oui, mais c'est ce qu'on appelle le barrage puant.
Le barrage puant. Bien.
D'ailleurs, à l'heure actuelle, le seul moyen de se faire entendre, c'est de faire des barrages. Là, vous en avez partout. Vous en avez en Bretagne, vous en avez dans l'Hérault. Vous en avez un également à Donzère-Mondragon. Vous avez un barrage là-bas aussi, énorme. Ils ont amené des tonnes de béton et en plus, ils ont fait couler de l'eau. Cela représente quand même du travail.
Oui, bon, d'accord. Seulement, vous avez vu la réplique du gouvernement? Aussitôt, nous en avons fait d'électricité de votre barrage.
Ben, il fallait y penser.
Ah, je trouve aussi.
Dès septembre, ils rodent leur nouvelle revue, Un Français à Londres, pochade burlesque, autour du récent couronnement de la reine Élisabeth II d'Angleterre, avec Paul Prébois et Jacques Legras. Une nouvelle performance saluée par les critiques. Le ciment de leur succès, le scénario, immuable, accorde à chacun des deux sa spécialité. À Poiré, l'écriture des ébauches de sketchs, à Serrault, l'exploitation appliquée de chacun des gags avec une prédilection pour l'absurde, les contresens, les loufoqueries, les jeux de mots. Et pourtant, si l'humour les rapproche, tout semble les opposer. Poiré, élégant, désinvolte, bavard, cynique, Serrault, débraillé, anxieux, peu prolixe, mystique. Après le désormais fameux Jerry Scott, vedette de cinéma international, leur public découvre d'autres personnages hauts en couleur, la plupart du temps inspirés de l'actualité. Tel Clément Laprade, explorateur, sketch qui met en boîte un certain Paul-Émile Victor connu pour ses expéditions au cercle polaire. À chaque saison, ils se produisent dans de nouvelles créations, 5 ou 6 par an. Malheureusement, la mémoire audiovisuelle n'a pas conservé grand-chose de leur classique. On peut affirmer que leur humour va révolutionner le style comique et inspirer bien plus tard des troupes de jeunes comédiens, celles du Splendide, des Inconnus ou Autres Nuls, chers à Canal+. Indissociables, complémentaires, ils continuent de jouer en solo. Poiré aux deux ânes, où il crée sa dernière revue « Change-Élysée ». Entre deux spectacles, il se consacre à l'écriture. Serrault continue de se produire en solo, en compagnie de la troupe des Branquignols de Robert Derry, Dugudu. Et chaque soir, il quitte la troupe pour rejoindre Poiré chez Gilles. Voici la suite du sketch « Monsieur Poton, indépendant ».
Mais entre nous, il n'y a pas que les paysans de mécontents. Regardez donc, les CRS aussi font des barrages maintenant.
Oui.
Mais en plus, ils vous demandent vos papiers.
Oui, ouais, ça, c'est autre chose. N'abordons pas ce chapitre-là. Je continue. Le 26 juillet, vous déboulonnez la statue de la République, place de la République, pour la mettre en travers de la chaussée.
Oui, ça, je reconnais, ce n'est pas malin.
Oh, bon, je dois vous le dire franchement, ce n'est pas malin.
Mais enfin, cela s'est fait sans intention. Ce sont deux petits cousins qui étaient en vacances à la maison, deux petits garçons qui ont fait ça comme des enfants, quoi, pour faire une niche sans grande malice.
C'est ça, oui.
D'ailleurs, on a eu assez de mal à la remettre en place, la statue de la République. Hein. Avec ma femme, on a eu un mal fou. Hein.
Aïe. Toujours avec votre femme.
Oui, avec ma femme, oui.
Et alors, pour couronner le tout, non, ça, c'est le fin du fin. Lundi dernier, vous braquez un revolver sur la nuque d'un conducteur de la ligne 74, hôtel de ville, hôtel Beaujon, en le menaçant de l'abattre s'il ne mettait pas immédiatement le cap sur Cuba.
C'est exact, oui. J'avais promis un autobus à Castro, alors c'est la vérité.
N'importe quoi.
Et si je n'étais pas tombé en panne sèche à Suzy-en-Brie, à l'heure actuelle, j'y serais, à Cuba.
Mais vous ne vous imaginez pas tout de même qu'avec 40 litres dans le réservoir. Non, mais faire l'hôtel de ville Cuba d'une seule traite, non, ne me dites pas ça à moi.
Non, mais c'est une erreur de calcul. Hein. Je pensais qu'en roulant normalement, j'en avais besoin de refaire le plein qu'à Tanger. J'avais calculé. Hein.
Oui, enfin, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ces folies? Non, mais dans quel but faites-vous ça?
Eh bien, dans le but de vous prouver... De vous montrer que j'existe. Depuis 40 ans, vous ne tenez aucun compte de moi, de mes désirs, de mes aspirations. Je n'avais jamais cherché à me connaître.
Oh, je vous en prie, hein. Vous n'allez pas pleurer.
Ah, si, laissez-moi pleurer. Laissez-moi pleurer.
Vraiment, non.
Vous ne vous êtes jamais penché sur moi. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous ne m'avez jamais pris sur vos genoux.
Ah non, bien sûr.
Pour me demander si je ne souffrais pas trop de la vie chère, si le service militaire ne me paraissait pas trop long. Enfin, vous n'avez jamais eu un geste.
Vous êtes de très mauvaise foi. On vous a consulté à différentes reprises.
Ah oui, à la sauvette, hein, entre deux urnes.
Oui, bah, comme tout le monde. Hein, vous ne faites pas exception à la règle.
Mais un vrai contact humain, jamais. Et ce dont j'avais besoin, c'est de la chaleur d'un regard. Or, je n'ai jamais eu les yeux du président de la République.
Oh, mais soyez réaliste. Non, mais s'il fallait que le président de la République prenne chacun de vous sur ses genoux pour le regarder dans les yeux, non, mais où irions-nous, je vous le demande.
Ah ben, chacun de nous, je ne dis pas, mais en tout cas, les plus sensibles d'entre nous, n'est-ce pas? Quand même, non, ça je vous dis, cher monsieur, j'ai gros cœur et c'est pour ça que je fais toutes ces...
Oui, bon, et bien moi je vous le dis, cher monsieur, à mon tour, je n'ai pas gros cœur. Ça ne peut pas durer.
Vous avez parfaitement raison, ça ne peut pas durer.
Bon, vous vous rendez quand même à l'évidence.
Oui, car toutes ces manifestations me prennent du temps, me coûtent de l'argent, me fatiguent, je ne suis plus tout jeune.
Je suis heureux de vous voir dans de meilleures dispositions. C'est très bien.
Et tout cela pourquoi, hein? Pour ne m'attirer que des réprimandes et de la mauvaise humeur de votre part, hein?
Franchement, mettez-vous à notre place.
Mais écoutez, puisque vous n'avez pris aucun compte de mes revendications, de mon action, moi je vous dis tout net, cher monsieur, finissons-en.
Finissons-en. Ah oui, alors ça, je suis bien d'accord avec vous.
Oui, moi je pars.
Ah, c'est une très bonne résolution.
Non, mais je pars, hein.
Oui, vous partez, c'est très bien.
Non, je me sépare de vous.
Oui, d'accord. Mais il faut mettre votre menace à exécution. Alors, levez-vous, prenez votre serviette et sortez.
Non, mais comprenez-moi bien, je me sépare de vous définitivement.
Mais je ne suis pas sourd, j'ai compris en une fois.
Oui, je viens solennellement vous demander mon indépendance au sein de la communauté.
Vous venez me demander quoi?
Mon indépendance. Je voudrais être indépendant.
Je ne vois pas bien ce que vous demandez.
Je voudrais qu'on me libère de la tutelle de l'État.
Mais vous êtes fou. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous me demandez là?
Ben, vous le faites bien pour certains, alors pourquoi pas pour moi?
Nous le faisons. Nous le faisons pour des pays, pas pour des individus. Vous êtes en France, vous vivez en France, vous appartenez au patrimoine français.
J'appartiens comme les autres à la communauté.
Eh bien, la communauté, ce n'est pas la France.
Ah! Attention à ce que vous allez dire.
Oh, c'est intelligent. Oh, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas non plus. Hein? Bien sûr, la communauté, c'est la France. Mais la France, ce n'est pas la communauté.
Non, je ne comprends pas.
Je veux dire qu'on peut accorder l'indépendance à l'extérieur de la France, mais pas à l'intérieur.
Alors la France ne serait donc pas indépendante? Mon Dieu!
Fin 1953, il déchaîne les rires à la Tomate avec la revue L'Aine Épinée en compagnie de Jean Carmé. En 1954, ils finissent par goûter au premier succès grâce à leurs prestations dans diverses émissions publiques à la télévision ou dans des courts-métrages. Serrault fait ses premières apparitions au cinéma, mais il revient à la rentrée au cabaret. Un spectacle baptisé « Réflexion » avec, entre autres, Jacques Legras, Paul Prébois et Michel Roux. En 1955, les scènes de cabaret sont désormais trop exiguës pour leur grand talent. Bruno Cocatrix leur propose de passer à l'affiche de l'Olympia du 27 janvier au 7 février. Et voici la suite du sketch. Monsieur Poton.
Oh, ne pleurez pas, hein, je vous en prie. Si, évidemment, la France est indépendante, mais pas les Français.
Mais cependant, vous avez déjà accordé l'indépendance à certains Français.
À des Français de France?
Oui, monsieur. Bah, oui, monsieur.
De la métropole?
Mais parfaitement.
Des noms?
Bah, si vous voulez des noms, moi, je vais vous en donner.
Hein. Ah oui? Mais ça, je serais curieux de savoir.
Alors, monsieur Duché est indépendant. Monsieur Pinet est indépendant.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir du tout. Ces gens-là ne sont pas indépendants du pays, ils le sont du gouvernement.
Alors parce que le gouvernement, ce n'est pas le pays.
Si, mais le pays, ce n'est pas le gouvernement. Il diffère de conception avec le gouvernement, si vous préférez.
Et sur quoi?
Mais sur l'indépendance, précisément.
Ils sont pour?
Non, ils sont contre.
Contre leur indépendance?
Non, contre celle des autres.
Oui, mais alors le gouvernement?
Mais le gouvernement, lui, il est pour...
Pour leur indépendance?
Ah non, pour celle des autres. C'est pas sorcier, là, il faut y réfléchir.
Mais attendez, là. Pour celle des autres, alors là, nous sommes d'accord. Hein. Donc je viens vous demander mon indépendance.
Il n'a rien compris. Enfin...
Et si je vous la demande, c'est que je suis fondé à vous la demander et je le prouve. J'ai là un tas de documents qui vous prouveront qu'à l'origine, mon pays ne faisait pas partie de la France. Il n'a été conquis que bien plus tard.
Il n'a été conquis que bien plus tard? Non, mais c'est-à-dire...
Après 70.
Mais de quel pays êtes-vous donc?
De Milly-la-Forêt.
Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Milly-la-Forêt n'est pas française en 70.
En 70, Milly-la-Forêt n'était pas française?
Milly-la-Forêt n'était pas française en 1870?
Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne vous parle pas de 1870, je vous parle de 70. De 70 tout court, quoi, enfin. Mais qu'est-ce que vous me racontez?
Non, expliquez-vous. Je ne peux pas deviner non plus.
Mais c'est vous qui n'êtes pas logique. On vous dit 70 et vous ajoutez 1800. Alors 70, c'est 70. Hein. Et en 70, Milly-la-Forêt n'était pas française.
Et pour cause? La France n'existait pas, alors.
Mais comment la France n'existait pas?
Non, c'était la Gaule.
C'est la même chose. Vous n'allez pas renier nos ancêtres? Vos ancêtres?
Enfin, quoi qu'il en soit, vous appartenez à une race qui s'est fondue aux autres pour devenir française.
Oui, mais justement, moi, je ne me suis pas fondue du tout. Alors, quand les Français ont conquis Milan-la-Forêt, hein, mes compatriotes se sont exilés. Ils ont fui votre occupation. Hein, il n'y a que moi qui suis resté.
Oui, enfin, vous, en 70, vous deviez être à l'état embryonnaire, je suppose.
Oui, d'accord, moi, ouais, mais mes ancêtres.
Mais vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils étaient?
Ils étaient potonaves.
Potonaves?
Oui, c'est d'ailleurs de là que vient mon nom, Poton vient de potonave.
Oui, d'accord, mais de quel pays étaient-ils, là, ces potonaves, là?
De Potonie.
Bon, j'entends bien. Mais où était cette Potonie?
Eh ben, c'était où j'habite, monsieur.
Oui, mais ces ancêtres-là dont vous me parlez, là, venaient bien de quelque part avant. Il y a eu une origine à ça, non ?
Naturellement. Ils venaient de quelque part, oui.
Eh bien, alors, c'est ce que je vous demande.
Eh bien, oui, ils venaient d'un petit peu partout, naturellement. Ils venaient des côtes du Nord, du Loir-et-Cher, de la Dordogne.
En 70. On en apprend tous les jours.
Je vais vous montrer. J'ai des documents, j'ai des épreuves à l'appui. Hein.
Mais vous ne vous embarquez pas les mains vides, vous. Hein.
Heureusement. Hein. Tenez, j'ai là un acte qui remonte à l'âge de Pierre. Je vais vous montrer.
Pierre, votre fils.
Non, Pierre.
Vous voulez m'ôter ça de mon bureau ? Vous voulez-vous m'ôter ce caillou de mon bureau ?
Mais jetez un coup d'œil sur cette pierre.
Allons, ôtez-moi ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je déchiffre là-dessus ?
Mais tout est inscrit là-dessus.
Tout est inscrit là-dessus ? Non, mais je ne connais pas cette écriture.
D'ailleurs, j'ai d'autres pièces à la maison. Hein. Malheureusement, je n'ai pas pu vous les amener. Ce sont des documents sur menhir.
Vous avez bien fait. Non, mais allez, mais ôtez-moi ça, non, mais un tapis tout neuf qu'on vient de me poser, non, mais vous n'êtes pas honteux ?
L'éternelle ronde des engagements nocturnes continue. Sur la scène d'un théâtre à 21h, quelques sketchs au théâtre de 10h, et dans les différentes revues, dont les Mousquetaires au couvent. Dans cette revue, ils créent leur fameux sketch « Les embarras de Paris ». Conscient du succès des deux humoristes, Bruno Cocatrix, également propriétaire de la comédie Comartin, leur propose une vraie pièce, L'ami de la famille, mise en scène par Bernard Blier. Malgré le succès de la pièce, il ne lâche pas les cabarets. Au théâtre de 10h, il crée un nouveau sketch promis à un bel avenir, le salon de l'homme, une sorte de salon de l'automobile alors très en vogue, où les voitures sont remplacées par des êtres humains. Voici la fin du sketch de Monsieur Poton.
Mais alors, vous voulez quoi exactement ? Vous voudriez que nous décrétions Milly-la-Forêt ville libre ? C'est ça que vous voulez ?
Non, mais Milly-la-Forêt, ce n'est pas nécessaire. Simplement, le territoire que j'occupe à Milly-la-Forêt, ce serait suffisant.
Mais quel territoire ?
Mon pavillon, mes 1500 mètres carrés de terrain et les dépendances.
Vous voulez l'indépendance pour les dépendances aussi ?
Oh oui.
Non, mais c'est paradoxal.
Ah oui, mais c'est comme ça. Et alors, bien entendu, l'accession à la nationalité potonave pour tous les ressortissants.
Du pavillon. C'est-à-dire ?
Ben, ma femme, ma fille, mon fils aîné, mes beaux-parents.
Combien ? Un chiffre ?
En tout, 6 personnes, moi y compris. Hein. Monsieur Baudry, qui s'occupe du jardin, Madame Planche, notre femme de ménage, resteront à leur poste. En tant que travailleurs étrangers, nous les garderons.
Oh, mais c'est très gentil de votre part.
Je tiens également à vous signaler, nous restons dans la zone franche. Ça, c'est entendu aussi.
Ah bon ? vous m'ôtez un grand poids.
Mais... Rien n'est changé, tout reste comme avant.
Alors, si tout reste comme avant, pourquoi tenez-vous tellement à obtenir votre indépendance ?
De vous à moi, c'est surtout sur le plan économique.
Ah !
Oui, je trouve que vous ne générez pas très bien... J'en bafouille. Nos intérêts.
Ah, voilà. Ah, on y arrive tout doucement. Hein. On touche le fond du problème. Vous ne voulez plus payer d'impôts. Pour nous résumer, c'est ça.
Si, comme tout le monde. Seulement, comme j'aime bien savoir où va mon argent, je préfère m'en occuper moi-même, voyez-vous.
Oui. Je vois très bien.
Alors, vous n'avez qu'à me dire ce dont vous avez besoin. Je vous le procurerai jusqu'à concurrence de mon impôt.
Mon pauvre ami, non, nous avons besoin de beaucoup de choses, croyez-moi.
D'accord, mais je ne peux pas tout payer non plus. Hein.
Vous me demandez, je vous réponds.
Non, mais je vous ai dit jusqu'à concurrence de mon imposition.
Qui est de combien cette année, par exemple ?
De 140 000.
Envoyez-les donc là chez votre percepteur habituel et ne vous créez pas de soucis pour ça, hein, croyez-moi.
Ah non.
Ah si.
Non, n'insistez pas, je n'ai plus confiance.
Allez.
Oh, bah, qu'est-ce que vous avez encore comme frais ?
Bah, je ne sais. Vous m'abrutissez là avec vos questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Mais moi, j'ai besoin de savoir.
Mais je ne peux pas vous dire. Adressez-vous aux finances. On a les frais qu'on a tous les ans. À quelques milliards près, on a un budget qui bouge guère.
C'est toujours pareil ?
Oui, c'est les mêmes rubriques, en tout cas.
Oui, vous avez...
On a la reconstruction...
L'agriculture.
Oui, les hôpitaux, les pensions, les subventions...
Les écoles.
Oui.
Le budget de l'armée.
Oui, oui.
L'entretien de mes états frères également, il faut y penser.
De vos quoi?
De mes états frères, le Mali et la Côte d'Ivoire.
Ah oui, c'est juste.
Et naturellement, vous avez aussi le prolongement de l'autoroute du Sud.
Oui, nous avons aussi le prolongement de l'autoroute du Sud, oui.
Qu'est-ce que ça représente, ça?
Bon, je ne sais pas du tout, là. 95, 100 milliards, enfin, je ne sais pas.
Ben, je vous en donne pour 240 000.
Ouais, c'est intéressant. Ah. Ça doit représenter 12 ou 13 cm carrés de béton. C'est appréciable.
Ah ben c'est toujours ça.
Ah mais, je comprends.
Et alors moi, pour la main d'œuvre, je vous recommande un petit bricoleur.
Que vous connaissez?
Que je connais, oui. Il a travaillé chez nous, il nous a refait le dessous de l'évier de la cuisine.
Ah,
Alors, il pourrait vous faire vos 10 cm carrés d'autoroute. Il pourrait même terminer l'ouvrage si on le lui demandait. Il le ferait certainement. Il se ferait aider par son fils, n'est-ce pas? Il fait ça le soir après son travail de 7 à 9 et le dimanche toute la journée.
Bon, écoutez, je pense qu'un entrepreneur a déjà été pressenti. Enfin, si nous avions une défection, nous pourrions faire appel au vôtre. En tout cas, je vous remercie.
De toute façon, vous trouverez toutes ces propositions noir sur blanc dans ma demande officielle d'indépendance que ma femme est en train de recopier en ce moment à la maison.
Ah, mais je vois qu'on ne perd pas de temps dans la famille.
Alors, dès la semaine prochaine, mon fils viendra représenter ses lettres de créance au président de la République.
Très bien. C'est votre fils que vous nous envoyez comme ambassadeur, alors?
Oui, c'est lui qui nous représentera au sein de la communauté. Et vous verrez, c'est un garçon charmant, très poli, et vous serez content de lui.
Mais j'en doute pas.
Mais alors compétent, c'est un garçon épatant. Il vient d'avoir son brevet.
Ah bon? Mais il est tout jeune?
24 ans.
Ah oui, c'est la limite. Mais enfin... C'est encore beau.
Je dois dire quand même qu'il a fait toutes ses études dans une école française, hein, ce qui explique en partie...
Ah, mais la forêt, le contraire m'est étonné. Enfin, vous avez aussi une fillette, une petite fille?
Oui, elle est toujours à l'école communale.
Vous la laissez?
Enfin, je la retirerai dès que notre état sera reconnu, mais pas avant.
Ah ben parce que vous en revenez à votre histoire.
Mais c'est le but de ma visite.
Oui, alors par des chemins détournés? Vous n'avez l'air de rien, non, mais vous y revenez. Alors, écoutez-moi bien, cher monsieur, et réfléchissez une seconde. Si tout le monde faisait comme vous, si tous les Français réclamaient leur indépendance...
Ils le feront, c'est l'avenir.
Oui, mais enfin, vous vous rendez compte de ce qui arriverait?
Ah ben, il y aurait 40 millions d'États nouveaux au sein de la communauté, c'est tout.
Mais vous êtes fous. Non, mais vous êtes fou. Vous ne raisonnez pas. Mais vous êtes déraisonnable, absolument.
Mais vous ne m'avez pas entendu.
Mais si. Je vous ai très bien entendu, au contraire.
Ah ben pour vous, ça va être merveilleux. Plus besoin de gouverner, puisque nous gouvernerons nous-mêmes.
Ah, oh, ben alors.
Mais le président sera toujours l'hôte d'un état nouveau. Tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre.
Mais non. C'est de l'utopie.
Ah ben alors, nous sommes d'accord. Vous en parlez au président de la République et vous nous donnerez la réponse dans 48 heures.
La réponse? Je vais vous la donner immédiatement, parce que ça fait un quart d'heure que vous m'empêchez de travailler.
Oui?
Oui, vous allez me faire un plaisir. Vous allez prendre votre serviette et vous allez filer.
Mais que dois-je comprendre? Vous refusez de transmettre mes desiderata au président?
Je refuse de transmettre vos élucubrations, car ce sont... Des élucubrations.
Mais enfin, là, vous faites de l'obstruction.
Alors, vous appelez ça comme vous voulez, mais alors, disparaissez, parce qu'il va vous arriver un malheur.
Vous foulez aux pieds le droit sacré des hommes à disposer d'eux-mêmes, hein?
Oh, pas de grandes phrases, hein. Je ne vous foule rien du tout.
Bah, alors, cher monsieur, moi, je vous dis une bonne chose, hein. Dès demain, à midi de la forêt, dans toutes les allées du jardin, dans toutes les pièces du pavillon, dans le vestibule et la banderie.
Oui? Eh bien, quoi?
Mais des casques bleus.
Merci Françoise, merci Philippon. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sketchs de Poiret et Serrault. Notre émission est maintenant terminée, la citation du jour. Si l'acteur ne bouscule pas la réalité pour aller plus loin dans les émotions ou dans le rire, ce n'est plus un artiste. Elle est de Michel Serrault. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Et si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.